La prédication protestante. Chaque dimanche, un pasteur propose le commentaire d'un texte de la Bible centré sur le Christ.
Bonjour à tous, je m'appelle Luc et je suis heureux d'être avec vous sur Radio Présence pour la prédication protestante. Je ne sais pas si certains d'entre vous étaient coutumiers des encouragements ou des félicitations après les conseils de classe. J'imagine quelques sourires juste en repensant à tout ça. Pour beaucoup, c'est de l'histoire ancienne, c'est vrai. Et que ce soit des bons ou des mauvais souvenirs, dans un sens, on va avoir la joie de se trouver devant le bulletin des Philippiens ce matin, où on va constater des encouragements à persévérer dans un contexte hostile. Et Paul, dans cette lettre aux Philippiens, s'adresse particulièrement à eux en tant que partenaires dans l'Évangile. Et il veut terminer avec grâce, en les encourageant. Je vous propose donc de mettre pause peut-être sur cet audio et de prendre une Bible avec vous pour suivre la lecture. Je vais lire dans la lettre aux Philippiens, au chapitre 4, les versets 2 à 9. Et je lis dans la version Second 21. Vous y êtes ? Philippiens 4, versets 2 à 9. J'encourage Évodie et Saint-Tiche à vivre en plein accord dans le Seigneur. Toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi, ainsi qu'avec Clément et mes autres collaborateurs dont le nom figure dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous. Jusqu'ici la parole de Dieu. Alors nous voyons dans ce texte que Paul s'adresse à des partenaires exemplaires malgré l'hostilité. Et pourquoi est-ce que je parle ici d'hostilité ? Parce qu'on parle de désaccord, de combat, du monde extérieur. On nous encourage à la douceur, on nous encourage à se réjouir. Des exhortations qui sont pertinentes quand justement on n'est pas en train de se réjouir. Et même, on va parler d'hostilité dans nos pensées à la fin de cette section. Donc on est bien dans ce contexte d'hostilité pour les Philippiens qui reçoivent cette lettre de leur bien-aimé fondateur qui lui-même se trouve en prison. On va voir donc ensemble trois types d'hostilité. Premièrement, l'hostilité dans les relations internes. Alors est-ce que ça nous concerne ? Eh bien, en fait, ce n'est pas vraiment une question. Ça nous concerne. C'est une affirmation. Là où il y a un minimum de deux personnes, on arrivera tôt ou tard à une forme d'hostilité dans les relations internes. Regardez simplement un couple. Prenez deux personnes qui se sont choisies parmi des milliers, qui s'aiment, qui parlent la même langue et se connaissent probablement très bien. Eh bien, malgré tout cela, vous obtiendrez inévitablement, tôt ou tard, de la tension, de la rivalité et jusque dans certains cas, une triste séparation. Et il faut admettre qu'il y a une grande variable dans la façon dont l'hostilité s'exprime dans nos relations internes. Certains ont le sang chaud et la langue bien pendue. D'autres ont juste une bonne mémoire, une colère froide et un goût pour la vengeance. Parfois, ça se traduit simplement par de l'indifférence. Ici, on ne sait pas vraiment ce qu'il se passait entre Évodie et Saint-Tiche. Et c'est tant mieux, parce que déjà, ça ne nous concerne pas. Mais en plus, ça nous permet d'envisager toutes les formes d'hostilité que j'ai déjà mentionnées. Donc ça nous parle à tous. En fait, la seule chose qu'on connaît de ces deux femmes, c'est qu'elles sont aimées de Paul, qu'elles ont combattu pour l'évangile aux côtés de Paul et que logiquement, pour lui, leur nom figure aussi dans le livre de vie, aux côtés des autres collaborateurs. Et c'est intéressant ça. Ça veut dire qu'on peut être en désaccord sur un sujet sans être pour autant anathème, maudit. Paul lui-même l'expérimenta en acte 15 avec Barnabas qui voulait prendre Marc et Paul qui ne le voulait pas. Nous on va au nord, vous vous allez au sud. Ok, le désaccord est possible sur la façon de faire, sur les moyens mis en place, sur la stratégie. Mais Paul ne se contredit pas. Il faut demeurer en plein accord dans le Seigneur. Ce petit exemple d'Évodie et Saint-Tiche nous montre qu'il y a des choses pour lesquelles on peut exprimer nos opinions, voire nos désaccords, mais que l'union dans le Seigneur doit demeurer intacte, qu'importe les circonstances. La preuve que l'union est absolument nécessaire, Paul demande à une tierce personne, fidèle a priori, de leur venir en aide. Tout est mis en œuvre dans l'amour pour maintenir l'unité dans le Seigneur. Deuxièmement, on voit de l'hostilité vis-à-vis du monde externe. Parce que directement, cette unité interne entre Évodie et Saint-Tiche va impacter le regard du monde externe. C'est logique. Imaginez juste, vous vous baladez en ville, au centre-ville de Toulouse, et vous voyez une vitrine d'une boutique de jouets. Vous regardez à l'intérieur les jouets, et puis vous observez les collègues, les vendeurs, discuter entre eux à l'intérieur. Vous allez être capable, en 30 secondes, d'avoir une idée de l'ambiance qui règne au sein de l'équipe de cette boutique. Et ça va vous encourager à entrer ou à passer votre chemin. Faites le même exercice dans une église, et parfois ça fait peur. Si l'apôtre Paul signe beaucoup de ses lettres aux églises par grâce et paix, c'est que les deux ingrédients manquent malheureusement souvent dans nos églises. Et c'est pas juste dommage pour nous, l'ambiance qui règne entre nous. Ça impacte aussi la vie du monde extérieur à l'église. Et inévitablement, ça entache le nom de Dieu. Et ça, c'est bien plus grave. Voilà pourquoi Paul nous encourage à être connus pour notre douceur. Alors attention, il ne dit pas « mollesse », il ne faut pas confondre. Il utilise le mot « douceur ». Et dans le contexte de l'église de Philippe, où on avait beaucoup d'anciens légionnaires, pas forcément connus pour leur douceur, où la persécution n'était pas très loin, la douceur, fruit de l'esprit, était nécessaire pour contraster et illuminer la ville. Et la douceur implique logiquement de l'humilité, quand la colère, elle, implique souvent de l'orgueil. Donc, après l'hostilité interne, Paul encourage vraiment les Philippiens à la douceur pour faire face à l'hostilité externe et porter un bon témoignage auprès de la population de Philippe. Et enfin, il conclut sous une autre forme d'hostilité, celle qui se joue dans nos pensées. C'est le troisième point, l'hostilité dans nos pensées. Et là, la première chose à noter, c'est qu'il ne nous interdit pas de penser aux choses mauvaises. En fait, il fait l'inverse. Regardez avec moi au verset 8. Il nous encourage à remplir nos pensées de tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, qui est synonyme de qualité morale et digne de louange. En fait, c'est comme avec des enfants. Dites-leur de ne pas toucher à ce jouet qu'il y a sur la table. Devinez quoi ? Ils vont le faire. Faut plutôt encourager à autre chose. Et ça, c'est un exemple pour le domaine des actes. Mais dans le domaine de la pensée, c'est encore plus compliqué. Je vous propose de faire tous un test, vous qui écoutez. Que vous soyez chez vous, au volant peut-être, ou en train de faire votre footing quotidien, Ne pensez surtout pas à un marteau rouge. Voilà, je pense que je n'ai pas besoin de vous voir pour savoir que vous avez tous perdu. Dans la seconde qui a suivi, tout le monde a visualisé un marteau rouge, sauf ceux qui ne parlent pas français et qui n'ont pas compris l'interdiction. Mais c'est juste une force de constater que l'être humain fonctionne comme ça. Et Paul le sait. Alors, il mentionne des axes de pensée louables. Et je vous encourage vraiment à méditer sur ce verset 8. Écrivez-le au dos de votre téléphone, lisez-le régulièrement, mémorisez-le, faites tout ce qui vous sera utile pour que ça inonde vos pensées justement. Un professeur que j'ai eu à l'Institut biblique de Genève nous racontait qu'il se remémorait régulièrement ce verset quand il prenait les transports en commun étant jeune, et là où les pensées d'un jeune homme ou même d'une jeune femme peuvent être mises à mal. Et ça lui évitait simplement de cultiver des pensées adultères, des pensées dégradantes, des pensées médisantes entre la publicité et les personnes que nous croisons. Toutes sortes de pensées peuvent se mélanger. Et il faut reconnaître que nos pensées sont difficiles à contrôler. C'est un fait. Mais au lieu de les brimer, il nous faut les remplacer et les alimenter avec de bonnes pensées, des pensées vertueuses. Et ça, c'est une grâce. C'est une grâce de pouvoir faire ce changement. C'est grâce à l'Esprit de Dieu qui habite dans le cœur des croyants que nous pouvons intenter ces petites révolutions qui partent de nos pensées, mais qui finissent inévitablement par impacter notre attitude et puis finalement nos actes. Et regardez comment Paul encourage ses bien-aimés de Philippe et nous avec. Il les encourage avec Dieu. Parce que jusqu'ici, on pourrait croire que je vous lis une recette pour être une meilleure personne dans un contexte hostile. Une recette que vous pourriez trouver au dos de n'importe quel magazine de société ou bien dans un livre de développement personnel à la FNAC. Mais non, tout cela repose sur Dieu, sans qui nos efforts sont vains et inefficaces. Et regardez, le verset 4, dans l'hostilité, il nous demande de nous réjouir. Réjouissez-vous, pas de l'hostilité en elle-même évidemment, ni Paul ni Dieu ne sont masochistes, mais se réjouir dans le Seigneur. C'est un véritable appel à considérer les réalités célestes en priorité et s'en réjouir, alors que les réalités terrestres, elles, sont parfois peu enthousiasmantes. Si tu es fatigué et découragé, si tu es seul, si tu es malade, si tes circonstances de vie sont particulièrement difficiles et que les réjouissances sont un luxe hors de prix que tu ne peux pas te payer. En fait, si, tu peux te réjouir. Tu peux te réjouir, mais en Christ, uniquement en Christ. Parce que fatigué et découragé, courbé sous un fardeau éreintant du quotidien, tu peux aller vers celui qui donne vraiment le repos. Jésus-Christ, le Seigneur. C'est Matthieu 11 qui nous apprend cela. Tu es seul? Eh bien, je t'apprends que c'est impossible. Car le Seigneur nous a promis sa présence, la présence du Fils de Dieu à nos côtés jusqu'à ce qu'il revienne et qu'on soit visiblement dans sa présence. Tu es malade? Eh bien, sache qu'en Christ, un jour, ça ne sera plus possible. Et qu'ultimement, la maladie la plus importante, la maladie du cœur, est traitée par Christ te concernant. Et en fait, tu peux prendre n'importe quel pan de ta vie qui, de base, ne te pousse pas à la réjouissance. Et forcément, à la lumière de Jésus-Christ, la réjouissance est plus que logique, parce qu'il est venu donner sa vie pour que nous, nous ayons la vie, et que nous ayons la vie en abondance, une vie réjouissante. Et c'est déjà en partie le cas quand on considère toutes les bénédictions que l'Éternel déverse sur nous. C'est déjà en partie le cas quand on considère simplement que nous vivons. Mais ce sera un jour parfaitement le cas. Un jour, nous serons parfaitement dans sa présence. Nous serons privés de toutes ces circonstances pénibles de nos vies que nous côtoyons, que nous connaissons trop bien. Et malgré ces circonstances pénibles, actuellement, aucune d'entre elles, aussi difficiles soient-elles, ne peuvent nous enlever la réalisation des promesses faites en Christ et tenues par Christ. Si vous vivez l'une ou l'autre de ces hostilités, sachez que le Dieu de paix des Philippiens peut aussi devenir votre paix. C'est la même offre. Elle n'a pas changé et elle est à saisir pour la première fois aujourd'hui que tu entends ou pour la 643e fois alors que tu connais très bien ce texte. Alors mes encouragements, c'est que nous nous tournions tous vers le Dieu de paix dans nos contextes hostiles, que nous nous accrochions tous à ses promesses car elles sont valables, fiables, et que nous puissions repasser dans nos cœurs ces promesses, ces versets, pour nous réjouir. Paul le répète, alors je le fais aussi. Réjouissez-vous, réjouissons-nous en Christ, notre Seigneur. Et pour savoir si on se réjouit vraiment, je nous propose un petit test. On peut évaluer nos paroles ou même nos propres prières. Nous, on fait ça à la maison avec nos enfants. On leur apprend à prier en quatre domaines pour enrichir et varier nos prières. On leur apprend qu'on peut prier en disant « Waouh !» c'est-à-dire rendre gloire à Dieu pour qui il est, ses attributs. On leur apprend qu'on peut prier en disant « Pardon !» en disant « Merci !» et en disant « S'il te plaît !» Et en général, faut reconnaître que nous sommes des grands spécialistes des « S'il te plaît !» mais on peine à verser dans la reconnaissance, à dire merci. Si Paul le répète, c'est qu'on a besoin de l'entendre à nouveau et de l'appliquer à nos vies. Et là encore, le témoignage sur les gens de dehors, du dehors, en sera impacté. Et j'ai envie de dire, particulièrement en France, imaginez deux secondes des Français reconnaissants. Alors je sais, ça demande une bonne dose d'imagination. Mais ça serait mémorable, des Français qui disent « merci ». Et ça serait par contre tout à fait logique pour des chrétiens qui ont tant reçu de Dieu, qui ont reçu la paix, la vie, l'espérance, qu'ils vont exprimer leur reconnaissance à Dieu et autour d'eux durant l'éternité. Et je parlais des « s'il te plaît », mais regardez le verset 6. Il y a aussi de la place pour cela. Et remarquez qui y répond, c'est le Dieu de la paix. Le fait que ça soit le Dieu de la paix nous oriente vraiment sur les besoins en question dans ce contexte précis d'hostilité. C'est probablement pas nos besoins du consommateur du 21e siècle. Mais c'est beau de voir cette promesse. Ne vous troublez pas. La paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et c'est aussi la conclusion du verset 9. Le Dieu de la paix sera avec vous. Le Dieu de la paix sera avec vous. On voit ici le cœur pastoral de Paul qui encourage dans ce contexte d'hostilité à viser l'exemplarité chez ses partenaires. Quel baume au cœur de recevoir cette lettre pour les Philippiens où les encouragements vont de pair avec les belles promesses concernant Dieu. Et c'est un bel encouragement en soi de voir que Paul ne vise pas l'impossible. En fait, il dit « Faites comme moi », verset 9. « Ce que vous avez appris, reçu et entendu, vu de moi, mettez-le en pratique. » C'est donc un objectif atteignable parce que Paul l'a fait, mais surtout parce que Dieu le permettra par son esprit et en s'appuyant sur ses promesses. Que nous puissions viser tous l'exemplarité comme les Philippiens, et malgré les contextes hostiles dans lesquels nous vivons, en comptant sur les promesses de Dieu, en préservant l'unité, en arborant la douceur et en alimentant nos pensées à la bonne source. Que Dieu vous bénisse tous en Jésus-Christ.
Malgré sa colère, notre rébellion, il est venu payer la rançon.
Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur, qui pour nous est offert, quand nous étions
de l'esprit,
et nous n'aurons qu'un seul rêve, que cette nation connaisse le nom de Jésus-Christ. Louons Dieu pour nos différences, abandonnons les médisances, que l'œuvre du diable soit mise en lumière, que le Père fasse son pays.
Avec les anges et nous ici présents, passerons l'éternité ensemble à l'adorer. Alors dès maintenant, vivons dans l'unité.